BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Association de la Semaine. J'accueille aujourd'hui Monsieur Chemillet, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez aujourd'hui l'association Improvisation et Technologie.
Oui.
Alors avant de développer, dites-nous en quelques mots ce qu'est cette association.
Alors c'est une association qui a été créée pour établir une sorte de pont entre le monde de la recherche dont je viens, dans la recherche en informatique musicale qui développe des nouveaux logiciels, et le monde artistique, de la musique, pour monter des projets avec des musiciens, et en particulier en Normandie, à Vernon.
Donc ce projet, ça tourne autour d'un logiciel particulier.
Oui. Oui, c'est un travail qui a été fait depuis déjà pas mal d'années, en collaboration avec l'IRCAM, qui est un gros laboratoire d'informatique musicale à Paris, au centre Georges Pompidou, c'est même l'un des plus gros du monde. Et alors moi, je suis pas à l'IRCAM, je suis à l'école des hautes études en sciences sociales, mais je travaille en collaboration étroite avec eux, et on a développé ce logiciel qui fait de l'improvisation musicale.
Alors avant de parler davantage de ce logiciel, combien de temps il a fallu pour développer ce type de...
Ben c'est un programme. Travail de longue haleine, hein. Dans la recherche, c'est du travail de fond, donc ça fait une quinzaine d'années en fait qu'on travaille là-dessus, et même on avait déjà fait des choses avant qui préparaient le terrain, mais la technologie, la vitesse des ordinateurs et ces choses-là ont permis qu'on commence à réfléchir à ça, et donc si vous voulez, l'idée c'est que pour sortir du monde des technologies musicales actuelles qui sont beaucoup tournées autour de la boucle, du bouclage, on a des samples qu'on met en boucle et qu'on superpose, etc. Pour sortir de là, il fallait autre chose, et donc c'est là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire un système qui soit génératif, dans lequel l'ordinateur a une capacité générative.
Vous avez inventé une intelligence artificielle musicale en fait qui s'adapte et qui improvise.
Exactement, c'est le mot. C'est-à-dire que alors c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à faire ça, mais par rapport aux technologies d'il y a 20 ans qui étaient encore une fois très orientées vers la loupe, la boucle, maintenant on peut faire des systèmes de plus en plus intelligents. Et donc, il y a une véritable co-créativité, c'est-à-dire que c'est plus le musicien tout seul qui va mettre ses boucles et mixer ses samples, etc. Mais le musicien va se retrouver confronté à quelque chose qui a lui-même son mot à dire, qui est l'ordinateur, qui va lui proposer des choses, et alors après, à lui de choisir de naviguer dans ce monde, mais qui est un monde de co-créativité entre l'homme et la machine.
Vous avez fait un projet qui s'appelle le projet de jazz augmenté. C'était là aussi un défi de mettre le musicien face à la machine?
Exactement. Alors ça, c'est un projet qui a été monté avec l'un des principaux musiciens avec qui on a travaillé, qui est le grand musicien de jazz Bernard Luba, qui est une grande figure de la musique, qui a joué avec des grands noms comme le saxophoniste Stan Getz et tout ça. Et donc, ce musicien de jazz, il nous a beaucoup encouragés. Et alors lui, il est très attaché comme musicien de jazz, c'est normal, à la musique live, c'est-à-dire le fait d'être avec ses instruments devant un public, de réagir au public, de réagir aux autres musiciens et tout ça. Et il trouvait que l'un des problèmes avec les musiques électroniques, c'est que, justement, à cause de ce principe de mise en boucle, ce principe de tempo immuable qu'on mesure en BPM, en battements par minute, c'était assez antinomique avec la conception du jazz, et donc on a imaginé ce projet jazz augmenté, avec l'idée que on va essayer d'insérer ces machines dans le monde du jazz, qui est plutôt un monde acoustique et instrumental.
Oui, parce que le jazz, on va dire contemporain, c'est une musique avec les battements, comme BPM, la radio justement, battements par minute, où il y a des battements lents et qui vont s'accélérer, puis redevenir lents. Ça part, on va pas dire dans tous les sens, mais ça part dans toutes
Exactement.
Les nuances.
Exactement, le jazz fonctionne, on le voit, quand il y a eu des études qui ont été faites qui mesurent en millisecondes comment ça se passe, on voit que le jazz, il y a une certaine souplesse dans le tempo qui est indispensable, parce que si le musicien fait une phrase un peu compliquée, il va prendre un peu de temps pour la faire, et donc il a besoin de ralentir un peu le tempo, et toutes ces micro-variations, elles sont pas, c'est pas des défauts, c'est là que ça se passe en fait. C'est tout l'intérêt de cette musique, il est dans cet ajustement continuel entre le batteur, le contrebassiste, le saxophoniste et tout ça. Et ça, on peut pas le faire quand on a une musique qui est fondée sur le BPM.
Oui, et parce donc, que ça, c'est vraiment typique du jazz. On ne sait pas ce qu'on retrouve dans quelque chose qu'on a de plus commercial, qu'on entend tous les jours, où c'est un gimmick, un changement pour un refrain, et ça repart sur la même chose, les boucles dont vous parliez tout
exactement.
À l'heure.
Exactement. Et alors, un musicien comme Luba, il a beaucoup fait de variétés, Luba, dans les années 60-70. Il a joué avec Johnny, il a joué avec beaucoup avec Claude Nougaro, avec tous ces chanteurs-là. Ben, il dit, ça, moi je l'ai fait parce que ça c'était très bien payé, et c'était pas inintéressant, mais c'était autre chose, c'est-à-dire que là, on mettait un casque, on jouait pas forcément tous ensemble, on se calait sur un tempo, mais il dit, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Jouer de la batterie pour faire ça, c'est pas du tout la même chose que jouer de la batterie quand on fait du jazz, où là, on peut s'exprimer, on peut prendre des initiatives qui vont perturber les autres, ou voilà. Et donc, c'est deux mondes un peu séparés, et on retrouve ça aujourd'hui dans la musique de variété qui est maintenant dans les enregistrements studio, c'est assez rare que les musiciens jouent ensemble. Ils jouent les uns après les autres avec un casque. Et donc voilà. Et le logiciel, il a été conçu pour explorer justement un univers qui est un peu à la frontière entre ces différents univers là.
Et avec quel type de musicien vous travaillez aujourd'hui, sur un type de musique particulier?
Alors, au départ, on a beaucoup travaillé avec Bernard Luba, donc ça s'appelle, c'était le projet Jazz Augmenté, qui était un peu orienté jazz, même free jazz, improvisation libre, tout ça. Après, j'ai beaucoup travaillé avec un musicien, un très très grand guitariste malgache qui s'appelle Charles Kelly Zanaruzzi, et avec son groupe. Et donc là, le challenge, c'était d'être capable d'intégrer l'ordinateur, de lui faire générer des phrases dans un contexte de musique fortement rythmée, évidemment, parce que c'est des musiques de l'océan Indien avec une conception du rythme très très forte. Et donc ce projet-là, il a abouti à un CD qu'on a enregistré tout récemment au studio de Vernon, parce que le groupe a été lauréat d'un concours qui a été organisé par le studio de Vernon, qui est une structure mise en place par la mairie, où il y a un excellent ingénieur du son, Flavien Dugard, et on a donc enregistré un petit CD qui est déjà l'aboutissement de plusieurs années de travail. Et puis je développe d'autres projets. Alors ici à Vernon, j'ai commencé à travailler avec une chanteuse qui est auteur, compositeur, interprète, qui s'appelle Marlene Boreva, qui fait des chansons électro, dont on reparlera peut-être après. Et puis j'ai encore d'autres projets. Il y a une association dans l'Orne, en Normandie, du musicien qui s'appelle Kamel Zekri. Et l'association s'appelle Les Arts Improvisés, avec qui on a commencé aussi à faire des collaborations. Voilà, donc on développe des choses en Normandie et puis ailleurs autour de ce logiciel.
Donc vous nous avez apporté un petit peu de bande sonore, et on va écouter un extrait d'une polyphonie dont une partie de la musique est générée par votre logiciel.
Exactement, alors c'est l'un des morceaux enregistrés sur le CD de Charles Kelly Zanaruzzi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Malgaches ont une tradition de chant polyphonique extrêmement forte. D'abord, ils chantent beaucoup à l'église. Dès qu'ils sont tout petits, on les met dans les chorales à l'église. Ils ont par ailleurs des traditions de chant polyphonique traditionnel, malgache donc. Et alors, ce qui fait que pour eux, c'est très facile, quand ils entendent une voix, de faire tout de suite la voix à la tierce, ou de faire une basse, ou de jouer en direct une deuxième voix ou une troisième voix. Et alors, ce qu'on a fait dans cet exemple, c'est que Charles donc chante une ligne mélodique traditionnelle, et puis l'ordinateur le capte. Ensuite, l'ordinateur improvise avec ce qu'il a fait, et lui se met à superposer dessus d'autres voix, et ça finit par faire une polyphonie, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui chante, et tout ça est fait en direct, c'est-à-dire que c'est pas du travail de montage, c'est fait à la volée, c'est-à-dire on part de rien, le chanteur chante, l'ordinateur capte et improvise avec, et ça fait une polyphonie.
On va en écouter un extrait tout de suite.
Miso kumia thana mangine izani ya lagelo sitepe tepe Sema saki miyalo walala na mafibe Iba yeni andala na utine kamani mbulu vavo mireti reti Tivu makia kuwani visaina kulasani Angine kizani ala yelo sitepi tepi Angine kizani ala yelo sitepi tepi Niyalo walala na mafipe Yaba yinyala na utine kama nimbulu vavo mireti reti Yaba yinyala na utine kama nimbulu vavo
Donc du coup, on peut entendre qu'il y a aussi des accélérations qui sont faites par ce logiciel. En fait, il s'amuse avec les mots, avec les phrases, il fait ce qu'il veut.
Exactement. Donc, alors même, on peut l'un des exemples les plus simples qu'on puisse faire, c'est de, par exemple, je parle là, et on pourrait imaginer que le logiciel capte ce que je suis en train de raconter, et puis tout d'un coup, moi, je m'arrête, et c'est le logiciel qui continue de parler. Il a capté ce que j'ai... Mais alors, sauf que comme il recombine les fragments de ce qu'il a capté, bah, ça va faire des phrases... pas forcément incohérentes, mais qui sont un peu bizarres ou qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, parce qu'il va prendre un sujet là, un verbe là, et recombiner, voilà. Et donc ça marche aussi sur de la voix parlée, ça marche en fait sur n'importe quel signal audio, on peut faire ça, et faire de l'improvisation avec ce qu'on a pris en entrée.
Mais c'est quand même assez fort d'avoir un logiciel qui reconnaît le sujet verbe complément et va mixer lui-même après toutes ces phrases.
Alors, il reconnaît pas la structure grammaticale de la phrase, et de même d'ailleurs qu'en musique, il reconnaît pas des éléments harmoniques, rythmiques, etc. En fait, il fonctionne avec extrêmement peu d'informations, mais il recombine. C'est plutôt statistique. Et le fait est que quand il recombine, on a l'impression d'entendre des phrases si c'est avec de la voix parlée. On a l'impression d'entendre des choses cohérentes rythmiquement si c'est avec de la musique, mais c'est pas lié à des systèmes compliqués qui marcheraient d'ailleurs sans doute pas très bien de reconnaissance grammaticale pour la voix parlée ou de reconnaissance harmonique ou rythmique pour la musique.
Est-ce que ce logiciel est capricieux parfois ?
Alors il peut être capricieux, c'est ça le plaisir de jouer avec un système de ce type-là, c'est-à-dire que on sait pas du tout ce qui va jouer. Et donc des fois on a des surprises, et alors quand on l'utilise dans des projets artistiques, toute la difficulté c'est d'arriver à le contrôler d'une certaine manière, on pourrait dire le domestiquer, hein, comme si c'était un peu une bête sauvage, et donc on a, mais alors ça c'est un peu aussi ce que fait un DJ quand il met des vinyles sur une platine, il a après des contrôles sur ce qu'il entend, et donc il faut tout le temps être à l'écoute de ce qui se passe, et puis on a développé des interfaces pour pouvoir agir. Si une phrase part dans des directions pas terribles, on peut changer, lui demander d'aller dans une autre direction. On peut aussi mettre des effets sur les phrases, par exemple accélérer. Donc on entend ce cas dans la polyphonie vocale de tout à l'heure. La phrase de Charles, tout d'un coup, le logiciel se met à l'accélérer. Donc évidemment, le chanteur ne pouvait pas faire ça. Donc du coup, il s'est mis à faire des notes plus lentes. Et puis après, il a carrément fait des bruits de bouche. Et donc voilà, il y a une espèce de dialectique comme ça qui s'instaure avec la machine.
Donc on peut le laisser faire, ce logiciel, mais on peut aussi avoir la main dessus. Physiquement, ça se présente sous forme de ce qu'on voit beaucoup actuellement, les launchpads, les planches carrées avec plein de boutons illuminés.
Exactement,
c'est comme ça.
Exactement, c'est ça les interfaces les plus répandues. Donc moi j'utilise un launchpad qui est donc une matrice de boutons lumineux. Qui en fait est à l'origine conçu pour le logiciel Live de Ableton, mais nous on l'a reprogrammé en quelque sorte, on a fait un driver spécifique pour notre logiciel, et puis j'ai aussi d'autres interfaces plus basiques avec juste des potentiomètres, et donc ça me permet de paramétrer un certain nombre de choses, mais l'idée c'est qu'effectivement le logiciel devient un instrument, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière qui le manipule.
Est-ce qu'on voit beaucoup ça en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des chaînes Internet où des jeunes mettent des sons sur ces boîtes, les remanipulent, refont des chansons complètes. On a vu deux jeunes qui sont très populaires, qui manipulent des génériques de publicité, qui en ont fait des morceaux, par exemple.
Oui, ça c'est très intéressant, ouais.
Donc ça se présente sous le...
Oui, c'est la même chose. Alors la différence, c'est que dans ces systèmes, c'est des samples qu'on manipule. Grosso modo, quand on appuie sur le pad, sur un bouton lumineux, ça déclenche un sample, et nous ça c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que, et du coup d'ailleurs c'est moins visuel, parce que quand on appuie sur un bouton ça déclenche rien, ça paramètre des calculs, et donc c'est la phrase va évoluer en fonction de ce qu'on donne comme paramètre, mais ça n'a pas, c'est pas un effet direct, voilà, parce que c'est un système dynamique, c'est pas un système statique.
Est-ce que la création de ce logiciel, c'est aussi parce que vous aviez envie d'apporter quelque chose de nouveau tout simplement à la musique, vraiment, parce qu'aujourd'hui tout a été presque fait au niveau musical, au niveau chanson. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de reprises d'anciens titres qui sont faits. Quelque chose de nouveau.
Oui, alors il y a vraiment l'idée de d'introduire une brèche dans le paysage musical, parce que on se rend pas forcément toujours compte, mais la technologie est devenue omniprésente dans la musique, et ça a des conséquences sur la musique elle-même. C'est-à-dire, alors on l'avait bien vu quand les sons de synthé FM sont arrivés dans les années 80. Bah, toute la variété s'est mise à avoir une couleur sonore de synthèse FM.
Quand Jean-Michel Jarre est arrivé.
Voilà, exactement. Et donc, mais ce problème s'est généralisé. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait un disque, c'est rarissime que les musiciens enregistrent ensemble. C'est beaucoup plus facile de les enregistrer les uns après les autres. Et donc, ça veut dire que comment ils se synchronisent? Ben, ils se synchronisent avec un clic. Ils mettent un casque et ils jouent comme ça. Mais alors ça a certaines conséquences sur la musique, et l'idée de ce logiciel c'est de pouvoir explorer des choses qui sont un peu à l'interface entre le monde des musiques électroniques qui est basé sur le BPM très formaté d'une certaine manière par rapport à ces contraintes là et le monde des musiques improvisées qui est beaucoup plus libre, dans lequel il y a ces petits ajustements de tempo dont on parlait, et aujourd'hui la technologie permet de le faire, et donc il y a peut-être l'espoir que ces mondes vont se rassembler, alors que c'est des mondes plutôt antagonistes, et donc effectivement il y a l'idée d'explorer quelque chose de nouveau.
Et parce que les BPM, les battements par minute que l'on peut gérer au niveau musical, on en parlait hors micro tout à l'heure, joue un rôle physiologique, joue un rôle sur le corps humain. C'est utilisé par exemple dans les rêves parties pour accélérer le rythme cardiaque, pour amener presque à un genre de transe.
Oui, exactement. Le rythme, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans le corps. Hein, c'est pas une invention, c'est pas quelque chose d'abstrait. Le rythme, c'est quelque chose de très physique, physiologique. Et alors moi, je le vois très concrètement parce que quand je joue avec, par exemple, dans des musiciens de world music, comme le guitariste malgache dont je parlais, là, il n'est pas question de se baser sur un BPM. Donc, je suis obligé de synchroniser l'ordinateur avec l'orchestre. Et alors, je le fais avec une interface dans laquelle j'ai une battue manuelle. Je bats les pulsations. Et alors, j'ai remarqué qu'il y a certains tempos pour lesquels c'est confortable de faire ça, et d'autres tempos pour lesquels ça devient inconfortable ou ça crée une espèce de tension. Et ça, c'est très lié à des rythmes qui sont inscrits dans le corps, qui sont liés au battement du cœur ou à tout un tas d'autres choses de cet ordre. Et alors, je sais que quand c'est autour de 120 battements par minute, là, c'est assez confortable. Mais par exemple, si on augmente, si on passe à 140 ou 150, ben moi, j'ai tendance à me crisper quand je synchronise l'ordinateur, parce que il y a des choses dans les muscles qui font que c'est beaucoup moins facile de le faire, et donc évidemment ces conditions là se répercutent aussi sur l'auditeur, et donc l'auditeur qui écoute de la musique, selon le tempo de ce qu'il entend, va ressentir des choses très physiologiques dont il n'est pas forcément conscient d'ailleurs, mais même dans les émotions qu'il va ressentir, elles sont aussi liées à des choses qui se passent dans son corps, des mécanismes, des échanges chimiques et des choses comme ça.
Est-ce que vous pensez que ce logiciel ne pourrait pas s'adapter à certaines musiques? C'est un challenge au contraire de l'adapter à tout type de musique?
J'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais a priori, le challenge, c'est de l'adapter à tout type de musique. Déjà, d'avoir réussi à intégrer une machine dans un contexte de world music, c'était déjà d'une certaine manière un challenge un peu emblématique, parce qu'on peut pas imaginer deux choses plus opposées. Et d'ailleurs, on le voit même dans les réactions du public, dans les réactions des programmeurs, quand on dit ah bah oui, c'est un groupe de world music mais il y a un ordinateur, tout de suite il y a, parce que c'est pas ça un groupe de world music, c'est des musiciens en costume, des choses très rythmées, très chaleureuses, c'est ça qu'on
imagine, recherche. Plus le djembé, la guitare,
voilà, le djembé, voilà. Et donc il y a des compartimentages comme ça dans le champ de la musique qui sont pas forcément présents comme ça a priori, mais auxquels on se heurte quand on explore les choses comme on le fait nous. Et donc nous, a priori, non, on n'a pas de limitation, toutes les rencontres sont bonnes à explorer.
Et à vous, monsieur Chemillet, mis à part le fait que vous relevez quand même un défi avec ce logiciel, qu'est-ce que ça vous apporte?
Alors, à titre complètement personnel, si c'est ça la question que vous me posez, disons que moi, j'ai été très intéressé par la musique quand j'étais plus jeune, et puis après, j'ai fait une carrière de chercheur, en fait, universitaire. Et puis là, c'est le grand plaisir pour moi, c'est de retrouver la musique, finalement, avec quelque chose qui est le fruit de mon travail de recherche, en collaboration avec tous les collègues avec qui j'ai développé ces projets. Mais d'une certaine manière, c'est un peu un retour aux sources, voilà, on pourrait dire.
Cette interview va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour intéresser les personnes à venir vers vous sur Internet, parce que vous avez un site Internet où on peut vous contacter?
Oui, alors on a un site Internet, donc http://digitaljazz.fr, donc digitaljazz.fr. Là, on trouve des informations sur les différents projets artistiques dans lesquels l'association est impliquée. On peut aussi écrire à contact@digitaljazz.fr, notamment si on veut se procurer le CD enregistré au studio de Vernon. Et puis alors, on a le projet de chercher des dates pour jouer en live à Vernon et dans les environs avec Marlene Boreva, donc la chanteuse avec qui j'ai commencé à travailler depuis quelques mois. Et donc ça, il y aura sûrement du nouveau là, de ce point de vue-là, assez prochainement.
Donc on n'hésite pas à suivre votre information sur votre site internet pour en savoir plus. Et si des musiciens sont intéressés par ce projet?
Ah ben, ils peuvent absolument nous contacter. Nous, on est ouverts à toutes les expériences et toutes les rencontres. Donc là, il suffit d'écrire à l'adresse du site et nous, on est très intéressés de rencontrer des musiciens.
Merci beaucoup, Monsieur Chevillier, de nous avoir accordé du temps.
Merci.
De notre côté, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, l'Association de la Semaine. Belle journée à tous, à l'écoute de BPM.